Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui.
J'ai récemment envoyé une newsletter dans laquelle j'ai invité mes lecteurs à me dire quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent pour m'aider à orienter mon année 2024 et les aider au mieux. Et l'une des questions qui m'a été remontée est comment réussir à atteindre ces objectifs. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, afin d'optimiser ma façon de faire et d'augmenter la réussite de mes objectifs. J'ai donc décidé de faire un épisode de podcast là-dessus pour t'aider à mener à bien tes projets pour cette nouvelle année qui arrive. Alors voici 8 erreurs que tu fais probablement et qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Et bien sûr, je t'explique pourquoi, car pour moi c'est important que ça ait du sens pour toi, et comment y remédier. Car c'est bien beau de voir qu'on ne fait pas les choses correctement, mais c'est encore mieux de savoir quoi faire à la place. Allez, c'est parti. Première erreur, choisir le mauvais objectif. Avant de parler de ce que tu vas mettre en place pour arriver à ton objectif et comment t'y tenir, il faut que tu choisisses ton objectif. Et en fait, ce n'est pas si simple que ça. Je dirais même qu'il y a 90% de chances que ce soit cette étape qui fait que tu n'arrives pas à réaliser ton objectif. Ou du moins qui contribue. Si tu penses manquer de volonté, c'est fort probable que ce soit tout simplement pas le bon objectif. Si c'est réellement important pour toi, tu auras la motivation pour le mener à bien. Alors, ça te paraît peut-être étrange, mais généralement, un bon objectif est atteint assez facilement. Pourquoi ? Car il vient nourrir une forte volonté de ta part. Oui, l'objectif doit être quelque chose d'important pour toi. Et même si a priori, c'est important pour toi, tu peux aussi venir creuser les inconvénients d'atteindre cet objectif. Les changements qu'il risque d'y avoir si tu atteins ces objectifs. Car tout n'est jamais blanc ou noir. Et prendre conscience de la globalité des conséquences peut mettre en lumière une peur ou plusieurs peurs qui seront bien plus fortes que les bénéfices à atteindre ton objectif. Et donc forcément, tu te mets des bâtons dans les roues et comme il y a plus de négatifs que de positifs, tu ne seras pas motivé à atteindre cet objectif, de façon consciente ou inconsciente. Par exemple, tu veux perdre du poids. En soi, il n'y a que du positif là-dedans. Mais quelles pourraient être les conséquences indésirables ou qui réveillent une peur en toi? Peut-être par exemple, le fait d'attirer plus le regard, la jalousie des autres femmes, la perte de plaisir, etc. Il y a toujours des conséquences indésirables, ou du moins la croyance que ces conséquences indésirables peuvent arriver, et dans tous les cas, il y a forcément des changements. Autre exemple. Tu veux gagner plus d'argent, donc soit en augmentant ton chiffre d'affaires parce que tu es indépendant, ou en ayant une promotion si tu es salarié. Oui, mais la conséquence pourrait être, donc la conséquence négative, pourrait être d'avoir moins de temps pour ta famille ou pour te divertir. La question n'est pas de savoir si c'est vrai ou non, mais si une partie de toi le croit vrai. Et s'il y a une partie de toi qui le croit vrai, ça va compliquer la réussite de ton objectif. Et après, c'est à toi de démonter ces croyances négatives. J'en parle dans l'épisode qui s'appelle « Et si c'était faux ?» On remonte dans les épisodes et tu verras un épisode qui s'appelle « Et si c'était faux ?» et je t'explique, je donne des outils pour essayer de changer ces croyances négatives. Ou tu peux aussi recadrer ton objectif. Peut-être que il y a besoin de le recentrer ou de le formuler différemment, on en parlera après. Ou tout simplement de changer d'objectif. Finalement, c'est pas si important pour toi. Ou bien, c'est pas le bon moment. Tu te sens pas encore prête à passer par au-dessus de ces peurs. Et car parfois, on croit vouloir quelque chose. Mais si on creuse, on veut peut-être ce qui est socialement admis comme un objectif que l'on doit atteindre. Comme par exemple, avoir des enfants, être marié, avoir un poste à responsabilité, etc. Mais t'es pas obligé de vouloir tout ça. Donc c'est très important de te demander qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Quelles sont les motivations derrière? Parce que si c'est quelque chose pour le socialement acceptable, ça va pas être assez motivant pour toi. Ça va pas être assez moteur pour que tu puisses atteindre ton objectif. Donc, la première étape est de cerner vraiment ce que tu veux et de voir les croyances qui te barrent la route. Si tu as besoin d'aide pour savoir ce que tu veux, que tu es plutôt dans le flou, tu ne sais pas encore trop. J'ai un épisode qui porte sur la roue de la vie. Alors j'ai dû l'appeler, je sais pas, un outil d'exploration, la roue de la vie, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un outil qui t'aide à faire un peu un bilan, une analyse de la situation actuelle et te donner les domaines sur lesquels tu pourrais essayer d'avoir des nouveaux objectifs pour améliorer la situation. Donc, deuxième erreur que tu fais peut-être, c'est mal formuler ton objectif. Maintenant que tu as une idée de l'objectif que tu veux avoir, il est important de bien le formuler. C'est le principe de l'objectif SMART. Donc, SMART, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc spécifique, ça veut dire qu'il doit être bien précis, bien détaillé. Mesurable, c'est-à-dire que tu dois pouvoir savoir quand est-ce qu'il est atteint, d'avoir une idée de... c'est pas forcément un chiffre, ça peut être 0 ou 1, c'est pas, ça peut être réalisé ou pas réalisé, mais tu dois avoir un indicateur te permettant de savoir que t'as réalisé ton objectif et aussi pour voir ton évolution. Donc c'est toujours mieux de pouvoir mesurer ta progression. Atteignable et réaliste, oui, si je me fixe l'objectif d'aller sur la Lune, je peux objectivement dire qu'il est peu probable que je l'atteigne. L'objectif doit être challengeant mais atteignable pour ne pas être démoralisant. Donc, ça doit être atteignable et réaliste. Et enfin, temporel. Donc, c'est-à-dire que tu dois te donner une deadline, une date de fin. Sinon, tu vas repousser les choses et tu ne seras pas en mesure de progresser dans ton objectif. Donc, le fait d'avoir une deadline, ça va déjà être motivant pour passer à l'action, mais aussi te permettre d'analyser tes résultats. On en parlera après. Donc, c'est important, ces quatre spécificités d'un objectif. Sinon, tu vas avoir du mal à vérifier qu'il soit atteignable ou à vraiment l'atteindre. Il faut vraiment que tu travailles sur cette formulation d'objectif. Sinon, tu vas peut-être être toujours insatisfaite juste parce que tu n'as pas bien précisé ton objectif. Et j'ajouterai une chose aussi. Il ne doit dépendre que de toi. C'est important que l'objectif dépende de toi. Et qu'il n'y ait pas trop de facteurs extérieurs, donc il y a toujours un facteur extérieur, mais que la mesure de l'atteinte de l'objectif soit dépendant de toi. Par exemple, si on reprend l'objectif d'avoir une promotion ou d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est bien, mais selon moi, il y a une variable extérieure trop importante. Ton chiffre d'affaires, ce sera selon si les gens achètent. Donc oui, tu peux le mesurer, mais c'est très dépendant de des autres. La promotion, ça peut être très dépendant de ton patron, de l'évolution du marché, des possibilités de ta boîte, etc. Et du coup, tu risques d'avoir une frustration, car tu as mis en place des actions pour, mais finalement, le résultat n'est pas là. Donc, c'est bien, ce type d'objectif, d'avoir cette volonté d'objectif, mais je pense que le formuler autrement, c'est mieux. Par exemple, ça pourrait être comme meilleur objectif de finir en avance le projet en cours ou de dépasser les attentes fixées pour l'année en termes de productivité ou par exemple d'augmenter ton nombre d'articles en vente sur ta boutique en ligne si tu vends quelque chose. Ça peut être aussi de proposer cette année des prestations complémentaires. Donc tu vois, dans ces exemples, tu va être responsable de la réussite de cet objectif. Bon, il peut y avoir des facteurs extérieurs, mais une grosse partie de l'atteinte de cet objectif dépend de toi. Et oui, il peut avoir comme conséquence l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation des revenus, une promotion, un nouveau poste, etc. Mais la récompense par un supérieur ou par l'achat par tes clients, c'est quelque chose d'autre. Toi, tu as fait, entre guillemets, ton job, tu as atteint ton objectif. Et ça, c'est important. Et selon les conséquences, tu peux ensuite revoir ton objectif ou la façon de l'atteindre. Par exemple, si tu n'as pas eu de promotion alors que tu as tout donné, peut-être change de boîte. Si tu as mis des prestations en ligne et tu n'as pas eu de clients, peut-être mettre d'autres prestations ou communiquer différemment, etc. Mais ton objectif, ce type d'objectif, en fait, le formuler ainsi, ça dépend de toi. Et après, tu les rends smart, parce que là, j'ai fait vraiment l'objectif sans mettre de temporalité, etc. Mais ça dépend de toi. Et donc, la réussite aussi dépend de toi. Et donc, la satisfaction de réussir sera pour toi. Ainsi, tu es dans le plein pouvoir pour atteindre ton objectif. Et les conséquences qui en découleront ou non, ça c'est autre chose. Ça va peut-être te permettre de fixer de nouveaux objectifs pour la suite, mais c'est autre chose. Et tu pourras nourrir ton estime de toi en te disant « Moi, j'ai atteint mon objectif. Moi, j'ai fait ce que je m'étais programmé de faire, ce que j'avais prévu. Maintenant, c'est à moi de voilà, recadrer le truc pour avoir les conséquences derrière. Mal formuler ton objectif ou te tromper d'objectif va petit à petit nourrir un sentiment d'échec et une diminution de l'estime de soi. T'es peut-être déjà dans cette situation-là. Donc si t'es dans cette situation-là, c'est d'autant plus important de te mettre des objectifs qui dépendent vraiment que de tes efforts, entre guillemets, que de ce que tu vas mettre en place. Pour t'aider à savoir si ton objectif est smart, tu peux te poser les questions suivantes. Comment je saurai que mon objectif est atteint? Quel est l'indicateur sur lequel je vais me baser, ou les indicateurs? Quel est, selon moi, mon taux de réussite, et pourquoi? Donc là, tu vérifies ce côté atteignable et réaliste. Et enfin, quel temps je me donne pour atteindre cet objectif? Donc ensuite, troisième erreur. Avoir un objectif trop lointain. Parfois, pour que ton objectif soit réaliste, réalisable, tu vas devoir te donner du temps. Par exemple, si je veux perdre 20 kilos, il est préférable de me fixer une deadline lointaine, mais réaliste, en adéquation avec ce que je veux mettre en place, que de me fixer un mois pour perdre 20 kilos. Sauf que voilà, il est bien d'avoir des objectifs à long terme, donc 5, 10, 20 ans même, mais il faut absolument que tu te fixes à l'intérieur de ces grands objectifs, des petits objectifs. Je pense que des objectifs trimestriels, c'est pas mal. ça laisse du temps pour mettre en place des choses, mais aussi pas trop de temps pour que tu puisses vérifier que tu es sur la bonne voie et voir la satisfaction aussi de la réussite de ces petits pas que tu as déjà mis en place. Donc ça va nourrir un plus grand objectif, mais tu vas le diviser en étapes que tu vas pouvoir atteindre progressivement et la réussite de ces objectifs va pouvoir nourrir ta volonté de continuer en fait. Et ça va t'empêcher aussi de procrastiner puisque la deadline approche. Donc par exemple, si tu te fixes des objectifs cette année, comment tu peux diviser chaque objectif en 4 objectifs successifs? D'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de définir immédiatement les 3 objectifs suivants. Fais seulement celui de ce trimestre. Si ça te paraît un peu trop flou le reste, ça peut te permettre aussi d'ajuster les objectifs suivant les résultats en fin de trimestre. Et n'hésite pas à modifier ton objectif initial s'il te paraît finalement trop ambitieux, ou pas assez challengeant, ou plus motivant du tout. Le but de faire des objectifs trimestriels, c'est justement de vérifier qu'on est aussi toujours intéressé par cet objectif, toujours sur la bonne voie, ou si finalement on pensait que, et non pas vraiment, ou si on était très optimiste et finalement c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, ou on avait oublié certaines choses. Et donc du coup, ça va prendre plus de temps. Donc, faut peut-être revoir ou la deadline ou la chronologie dans le temps. Donc, avoir des petits objectifs, ça aide beaucoup plus stimulant. Tu vas mettre les choses en place maintenant. Tu vas aussi avoir ces petites récompenses de réussite d'objectifs et ça va être un cercle vertueux pour continuer. Et même si tu n'arrives pas à faire ces objectifs, ça va te permettre aussi de recadrer ta façon de faire plutôt que te rendre compte à la fin de l'année qu'en fait t'as rien fait du tout. 4e erreur, avoir trop d'objectifs. C'est un peu ce qui se passe en janvier. Pleine de bonne volonté, on commence à lister toutes les bonnes résolutions qu'on va mettre en place. Seulement voilà, en juin, il ne reste aucune de ces bonnes résolutions. Et pire encore, on culpabilise et on se rabaisse pour ne pas les avoir tenues. Alors mon conseil serait d'avoir au maximum 3 objectifs. Et c'est déjà beaucoup. Après, si tu veux ajouter des petits objectifs à court terme, tu peux. Mais si tu restes à 3 maximum, tu as plus de chances d'y parvenir. Parce que sinon, tu vas te disperser, disperser aussi ta volonté, tu vas avoir plus de frustration. Donc, 3 objectifs, ça me paraît plus réaliste. On en revient au SMART, ça me paraît plus réaliste et ça me paraît aussi t'aider à être satisfaite de toi. Parce que à trop te fixer d'objectifs, finalement tu vas arriver à rien et rien ne sera terminé, rien ne sera fait et donc tu auras que de la mauvaise estime pour toi, etc. Donc 3 objectifs, c'est déjà beaucoup. 3 objectifs, donc 3 gros objectifs que tu peux diviser en trimestre d'objectifs, par exemple, pour cette année. 5e erreur, ne pas avoir de plan de bataille, être dans le flou. Ça arrive souvent. On a l'objectif de... Alors déjà, on définit pas bien son objectif, il est pas smart, et puis on a un objectif. Je veux, gagner plus d'argent. Mais tu mets quoi en place? T'as prévu quoi? Quelles sont les différentes étapes? C'est quoi tes petits objectifs dans ça? Déjà, plus il faut définir, etc. Mais il faut un plan de bataille. Si tu as déjà fait tout ce dont je viens de parler, tu es déjà bien parti pour arriver à réaliser tes objectifs. Mais il te manque une chose essentielle. Un plan de bataille. Un plan. C'est-à-dire, que comptes-tu faire pour y arriver? Tu dois être précis. Tu peux d'ailleurs... D'abord, lister les tâches que tu penses devoir réaliser pour atteindre ton objectif annuel, par exemple. Et ensuite, partir de celle-ci pour fixer tes objectifs trimestriels. Voici les questions auxquelles tu dois avoir des réponses. Quelles sont les tâches, les actions à réaliser pour atteindre cet objectif. De quel budget ai-je besoin pour atteindre cet objectif? Parce que, par exemple, tu prévois de changer ton alimentation, il va peut-être falloir revoir ton budget parce que tu vas acheter beaucoup plus de légumes. Peut-être que ça va te demander de dépenser différemment. Et ça, faut que tu y penses. Troisième point, quel temps dois-je y consacrer? Pour reprendre toujours cet exemple de rééquilibrage alimentaire, tu vas peut-être devoir consacrer plus de temps à cuisiner. Il faut que tu prévoies ce temps dans ton emploi du temps. Sinon, ça ne marchera pas. Et ça va permettre aussi de vérifier que c'est réalisable. Et enfin, y a-t-il des tâches qui dépendent les unes des autres? Par exemple, si tu as pour objectif de rénover ta pièce de vie, il va y avoir différentes étapes successives, mais elles sont presque toutes dépendantes l'une des autres. Donc, il faut bien avoir fini la première pour passer à la suivante. Donc, si tu décales une tâche ou si tu prends du retard sur une tâche, ça va décaler tout le projet. Donc ça, c'est important d'avoir conscience de ces différents éléments par rapport à ton plan de bataille. Donc, tu vas obtenir ainsi un plan détaillé avec une suite précise d'actions. Alors, t'es pas obligé d'en avoir 10 millions, hein, mais tu as des actions précises à faire, à mettre en place. Et cela te permet aussi de vérifier la faisabilité de ton objectif. Parce que parfois, oui, on a l'impression qu'il est smart, notre objectif, et quand on commence à dire « Ah, ça doit nous prendre tant de temps. Ah, ça doit nous prendre tant d'argent. Ah, ça va me demander de mettre telle action en place, mais là, techniquement, ça va pas être possible cette fin d'année parce que j'ai tel empêchement. » Ça va te permettre de vérifier que c'est bien réalisable. Aussi, on peut se rendre compte à cette étape qu'on a été peut-être un peu trop optimiste sur la deadline, sur la réussite, et que finalement, ça risque de prendre plus de temps ou il faudrait peut-être revoir un peu notre objectif à la baisse ou au contraire à la hausse. Et avec une liste d'actions précises, tu passes immédiatement à l'action. Parce que souvent, le problème, c'est que avec les bonnes résolutions en l'air, tu ne fais rien. Donc là, tu as des actions qui te mènent à ton objectif. Tu as un programme à suivre, tu as un plan de bataille. Cela va te permettre de prioriser aussi ton objectif dans tes choix. Si ton objectif est bien une priorité pour toi, tu vas faire des choix qui vont dans le sens de cet objectif. Et en ayant, par exemple, en sachant le budget que tu dois y allouer, en sachant le temps que tu dois y allouer, eh ben, tu vas prendre les choix te permettront d'avoir ce temps, d'avoir ce budget, etc. Et c'est pour ça aussi que si tu mènes trop d'objectifs de front, ça va être compliqué d'associer tous ces plans de bataille. Donc fais bien ces plans de bataille pour chaque objectif, et après regarde aussi si ça concorde dans le temps que tu peux, ou l'argent que tu peux, ou les compétences, les connaissances, les capacités physiques pour faire tes objectifs. Sixième point, sixième erreur, ne pas anticiper le manque de motivation ou les distractions. Généralement, on commence, on dit « c'est bon là, je suis vraiment motivée ». Par exemple, je vais faire deux fois par semaine du sport. Ouais, là, je suis motivée. Tu le fais. Et puis, arrive par exemple l'hiver. Et puis, il commence à faire plus froid. T'as pas envie d'aller à la salle de sport. Ou, oh, t'as pas la voiture. Donc, oh, tu vas pas aller à la salle de sport. Bon, tu vas rien faire. Ou, ouais, là, oh, j'ai pas trop le moral. Je vais plutôt faire autre chose qui va me remonter le moral, qui va me faire du bien tout de suite. Il va forcément y avoir, au cours de ton objectif, enfin forcément, souvent, au cours de cet objectif, des baisses de motivation ou des distractions qui vont te faire un peu dévier ton objectif. Et comme à un moment il va avoir ce 8 mai, il faut t'y préparer. Si je prends l'exemple du sport, ça peut être Oui, mais j'ai mes règles et j'ai mal au ventre. Bah, finalement, je vais pas le faire cette semaine. C'est pas grave, c'est qu'une semaine. Tu peux soit décider de base, dans ton objectif, de ne pas faire de sport à ce moment-là. Mais à ce moment-là, tu l'as décidé. Et donc, tu n'es pas en train de faire un écart dans ton plan de bataille. C'est prévu déjà comme ça. Ou tu peux aussi prévoir de réaliser une séance de yoga doux, d'étirement, de te dire que l'essentiel, c'est de bouger mon corps. Il y a aussi une autre excuse qui arrive souvent. Oui, mais j'ai pas le temps. Donc, là, si je reprends l'exemple du sport, tu peux te préparer à cette éventualité qui va forcément arriver et voir comment tu peux faire pour optimiser ton temps. Peut-être avoir ton matériel déjà prêt ou le préparer la veille, comme ça tu sais que c'est déjà prêt, tu vas pas perdre de temps. Même si t'es restreint en temps, tu auras le temps de le faire. Tu peux le fait d'avoir déjà sur toi, d'être porté déjà une tenue confortable. Tu peux te caler ton temps de sport sur un créneau que tu sais généralement toujours disponible. Ou commencer ta journée par le sport. Voilà, il y a plusieurs situations que tu peux déjà anticiper. En fait, il faut réfléchir en termes de si il y a ça qui arrive, alors comment je vais réagir? Si j'ai des douleurs, alors je fais une séance d'étirement. Si je n'ai pas le temps le midi, alors je fais ma séance avant de manger. Si j'ai envie de regarder ma série télé, alors je la regarde en faisant du tapis de course. Et plus tu vas prévoir ces si alors, plus tu vas pas te poser de questions, parce que quand la situation va te présenter, tu vas faire ce que t'as écrit dans alors. Recherche les distractions qui peuvent te mener à ne pas faire les tâches que tu t'es fixées. Et trouve une parade à mettre en place. Ainsi, quand ça se présentera, tu n'auras même pas à réfléchir à quoi faire, tu as déjà la réponse. Et tu n'auras pas aussi ce sentiment d'échec ou d'écart, puisque tu auras, encore une fois, suivi le plan que tu t'étais fixé. C'est vraiment important de penser à ça pour éviter de se morfondre, de culpabiliser quand tu ne réaliseras pas une tâche ou que tu n'en auras pas envie. Par exemple, si tu mets en place un rééquilibrage alimentaire, il te faut absolument penser au moment où tu seras invité chez des gens, au moment où ce sera les fêtes, etc. Et tu sauras ainsi comment tu décides de rebondir quand ces situations se présenteront à toi. Septième erreur, ne pas savoir où tu en es. Il est très important de planifier des évaluations de tes objectifs, d'autant plus si l'échéance est lointaine. Donc, des petites auto-évaluations en cours de chemin. Mais même pour tes objectifs trimestriels, chaque mois, regarde où tu en es. Donc, tu fais deux évaluations intermédiaires. Si t'as pris du retard, de l'avance, si t'as des difficultés, c'est l'occasion de vérifier que tes actions sont efficaces, que ton plan est cohérent, que ton objectif et ta deadline sont cohérents, ou peut-être faire des ajustements, ou retravailler peut-être tes si alors. C'est important de pas laisser pourrir le truc, entre guillemets, et puis de te rendre compte à la fin de l'année, oui, bah en fait j'ai pas réussi. Bah non, en fait, t'aurais dû prendre les choses en main bien avant si t'avais fait justement ces auto-évaluations entre deux pour te recentrer ou peut-être pour revoir cet objectif qui n'est pas du tout l'objectif finalement qui te va. Tu peux tout à fait modifier ton objectif en cours de route. Si tu vois que t'as été trop optimiste, trop pessimiste ou que c'est plus si important que toi, pour toi. Mais ce n'est pas parce que c'est facile pour toi que tu dois obligatoirement compliquer les choses. Ah oui, j'arrive à faire deux fois par semaine du sport, je vais en faire quatre fois. Non, on peut augmenter son objectif. Mais facile, c'est bien aussi. Ne t'en rajoute pas forcément. Surtout si tu mènes plusieurs objectifs de front. Et pense aussi que peut-être, les mois suivants, bah, tu rencontreras peut-être plus de difficultés. Et que finalement, cette avance se rééquilibrera au fil du temps. Donc, quoi qu'il en soit, tu dois te planifier des évaluations d'objectifs. Et la fréquence dépend de ta deadline. Si tu as un objectif trimestriel, je pense que tous les mois, c'est pas mal. Si tu fais des objectifs plus longs, tu peux, ou plus courts, tu vois, en fonction. Et pour ne pas oublier, t'ajoutes dans ton planning un rappel dès la fixation de tes objectifs. Comme ça, tu vas forcément faire ces revues d'objectifs de façon régulière. Erreur numéro 8, ne pas analyser ses échecs. Il est important, à la date de ta deadline, de procéder à une analyse de ton objectif. Et elle aussi, tu la planifies dans ton emploi du temps maintenant. Que ça soit une réussite ou un échec, analyse toujours ton objectif. Et c'est d'autant plus important en cas d'échec. Souvent, on s'en veut, on culpabilise, ou on n'a pas le moral, on ne fait pas cette analyse en cas d'échec. Mais aussi, même en cas de réussite, on ne fait pas forcément. Regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui t'a mis des bâtons dans les roues, si au contraire, t'as donné de l'énergie d'avancer, etc. Repère les modifications que tu peux faire pour replanifier ton objectif ou modifier ton objectif ou changer d'objectif. Peut-être que tu vas te rendre compte en faisant cette analyse que tes croyances derrière, tes croyances, tes peurs, tes croyances négatives, tes peurs derrière sont beaucoup plus fortes que ce que tu pensais et que finalement, ils t'ont cassé toute ta volonté pour réaliser cet objectif. Et ce n'est pas grave si l'objectif n'est pas atteint. L'idée est de chercher à s'améliorer, chercher à atteindre une vision de ce qu'on veut. Mais si entre deux, tu changes de vision, si tu prends un chemin un peu plus long, un peu plus court, peu importe en fait. C'est de passer à l'action qui est important. Donc, un échec doit te permettre de comprendre pourquoi et de procéder à ce qu'on appelle une amélioration continue, c'est-à-dire une révision de cet objectif. Et c'est très important de procéder à cette analyse, d'autant plus quand l'objectif n'est pas atteint. Mais même si c'est atteint, tu peux chercher à continuer dans ce sens ou atteindre encore, aller encore plus loin, etc. Mais j'ai plutôt parlé de quand il n'est pas atteint. Car tu te morfonds dans ton sentiment d'échec. Mais si tu te sers de cet échec pour en apprendre plus et réajuster, t'es plus dans la même dynamique, t'es plus dans le même discours interne. Et tu vas pouvoir atteindre un nouvel objectif que tu vas te fixer. Voilà pour cet épisode. Si tu as des thématiques dont tu aimerais qu'on parle dans ce podcast, fais-en nous part, on serait ravis de t'aider. À bientôt!